Découvrez la richesse des prestations et les compétences auxquelles vous pouvez faire appel en matière de promotion de la santé. Le MAG Promotion Santé sur RTN, en collaboration avec le Service cantonal de la santé publique.
Comment donner à son enfant le plaisir de manger de tout? Quelles activités pour bouger en famille? Comment créer un environnement favorable à la découverte? Manger et bouger pour le plaisir et la santé des familles, c'est le thème du MAG Promotion Santé ce soir. Pour en parler, nous recevons Daniela Sunier, diététicienne et coordinatrice de Fourchette Verte Neuchâtel, Aline Chorprince, psychomotricienne et coordinatrice du projet Youp la Bouge, et puis Florence Autier, diététicienne à Espace Nutrition à Neuchâtel. Bonsoir.
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 Alors, on entend beaucoup de recommandations en matière d'alimentation, en matière de mouvement. C'est par contre pas toujours évident à mettre en place, à mettre en pratique au quotidien. Donc, on va essayer de donner quelques repères pour pouvoir créer un contexte favorable. Si on commence par l'alimentation, il y a un sacré défi quand même en famille de proposer une assiette équilibrée qui plaise à tout le monde. Quelle piste, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'une assiette équilibrée qui plaît à tout le monde?
Alors, qui plaira à tout le monde, ça sera difficile à garantir, mais en général, on devrait avoir dans son assiette, pour qu'elle soit équilibrée, que ce soit pour un adulte ou un enfant également, une source de protéines, de la viande, du poisson, des œufs, du fromage, ou bien des sources de protéines végétales, comme les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, ou alors encore le tofu.
Donc pas obligé de la viande dans chaque assiette, dans chaque repas?
Pas forcément, non. Une source de protéines, mais on peut tout à fait la remplacer par autre chose que de la viande. Également un farineux, donc du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, ou d'autres céréales qui vont amener de l'énergie. Donc pour les enfants, c'est extrêmement important qu'ils aient aussi de l'énergie par leur alimentation. Et puis souvent, le point le plus complexe pour les enfants, un apport en légumes. Quand on dit légumes, on entend légumes cuits ou légumes crus.
Justement, les légumes qui posent souvent problème, il y a des trucs, il y a des astuces pour essayer de les faire un peu passer l'air de rien.
Alors,
on les cache ?
Il y aura peut-être pas, non, il y a peut-être deux trucs qu'on va pouvoir suggérer aux parents. C'est en fait, par rapport aux légumes crus, aux salades, aux crudités, de plutôt en fait commencer le repas par les crudités, dans la mesure où quand on n'aime pas trop la salade ou les légumes, si on commence par ça quand on a faim, ce sera plus facile à consommer que si on mange d'abord son assiette de pâtes ou une pizza ou de la viande et des pommes de terre et qu'on aura plus faim et qu'on n'aura plus envie de manger sa salade. Donc démarrer par la salade pour toute la famille et pour les enfants en particulier, ça va les aider.
Mais le défi aussi, c'est des fois d'essayer d'éveiller des nouveaux goûts aux enfants, de leur proposer des choses. Si on se retrouve devant un refus, il ne faut pas renoncer définitivement, il ne faut pas se décourager.
Effectivement, c'est vrai qu'un enfant il peut refuser un aliment un jour et un autre jour l'accepter. Donc c'est vraiment de le représenter régulièrement, on dit en moyenne 10 fois, jusqu'à ce que l'enfant accepte en fait un nouvel aliment. Après, c'est de le présenter sous différentes formes. Ça peut être des carottes juste en rondelles ou en bâtonnets pour aussi que ça puisse être différent. Et puis après, c'est aussi rassurer l'enfant, peut-être lui expliquer aussi la carotte, la montrer entière et ensuite dans l'assiette par exemple.
Est-ce que l'associer, quand c'est possible, par exemple à la préparation du repas, ça peut le motiver à avoir envie de goûter?
Alors c'est clair que si l'enfant participe, il va aussi être impliqué dans ce qu'il a fait, il aura envie plus de goûter souvent. Et c'est important aussi pour lui, parce que ça lui permet aussi de mettre des mots, j'ai coupé la carotte, du coup j'ai envie de la manger, ou un autre légume. Donc effectivement, qu'il aide à préparer le repas, ou un élément du repas, c'est... Ou le légume, c'est important.
Donc l'associer à ça, il y a beaucoup de parents qui ont des principes. Finis ton assiette, t'es obligé de manger tout. Est-ce qu'il faut rester rigide avec ces principes, ou bien il faut être à l'écoute aussi de ce que les enfants peuvent dire en disant non, j'ai pas envie, ou pas aujourd'hui?
Alors, je pense que c'est important de suivre effectivement aussi ce que les enfants disent, tout en sachant que le goût de l'enfant est évolutif. D'ailleurs, le goût des adultes aussi est évolutif. On peut tous se rappeler de certains plats qu'on aimait beaucoup et peut-être qu'on aime un peu moins aujourd'hui, ou bien qu'on aimait moins avant et qu'on aime beaucoup aujourd'hui. Donc ça, c'est peut-être rassurant déjà de savoir que le goût de l'enfant évolue. Et puis ensuite, je pense que c'est important, peut-être pas bien sûr d'obliger l'enfant à finir, mais plutôt de le faire goûter, de le faire goûter des petites quantités. Il ne s'agit pas de manger des grandes quantités quand c'est un aliment qu'on a de la peine à consommer, mais d'en prendre un petit peu. Et puis ensuite, bien sûr, de respecter son appétit. Quand on n'a plus faim, un enfant est tout à fait capable de nous le montrer. On va voir, il est moins intéressé, il a moins envie de manger quand il n'est pas encore capable de s'exprimer. Et puis quand il est capable de s'exprimer, il va nous le dire.
Mais des techniques comme, il y a des parents qui utilisent ça, l'enfant qui adore les pâtes mais qui n'a pas envie de manger ses légumes, on lui met que ses légumes, on lui dit tu manges tes légumes d'abord, après tu auras les pâtes. Ça, c'est des choses qui peuvent fonctionner.
Alors plutôt mettre des petites quantités de chaque et puis de stimuler l'enfant à goûter un petit peu avant de passer à un deuxième service de pâtes, par exemple. En tout cas, de le stimuler à goûter et pour les parents, bien sûr, montrer l'exemple. Ça, c'est vraiment important que les parents montrent l'exemple. Ça va aussi les encourager. Les parents peuvent aussi parler de leur goût à eux. Ils aiment certaines choses, ils aiment moins certaines choses, mais ils goûtent quand même, ils en prennent peut-être en plus petite quantité quand ils n'aiment pas.
Donc, ils disent, moi, j'aime pas, tu vois, mais j'en prends quand
voilà,
même un peu.
Par exemple.
Mais pour certains enfants chez qui ça peut peut-être tourner vraiment enfin, à l'obsession, mais où ça peut devenir très tendu, comment on peut éviter le conflit? Parce que l'idée, c'est quand même que la découverte et que l'alimentation, ça reste un plaisir.
C'est souvent des enfants qui sont très craintifs, hein, ces enfants qui sont très bloqués par rapport au fait de goûter des nouveaux produits ou des nouveaux aliments qu'ils ne connaissent pas. Donc il faut vraiment que les parents soient patients. Et ça, c'est peut-être pas toujours facile de les préparer, de leur montrer, de les avertir, de les informer qu'on aimerait qu'ils goûtent un petit peu, de leur montrer les petites quantités qu'on leur suggère de goûter, de leur donner l'exemple, mais surtout d'être patient. Comme vous disait ma collègue, 10 à 15 fois, c'est quand même beaucoup. Donc c'est vraiment ne pas perdre patience et les faire goûter progressivement 10 à 15 fois. Les refus, c'est souvent avec des aliments qu'on mange pas souvent. Il y a rarement des refus avec des pâtes, avec du riz, avec des nuggets ou des steaks hachés. Donc c'est vraiment leur donner l'habitude en goûtant tranquillement, sans mettre de pression, mais en accompagnant l'enfant dans cette découverte.
Vous évoquiez tout à l'heure les bases d'une assiette équilibrée. Là où on peut aussi peut-être un petit peu lâcher du lest, c'est que finalement, quand on parle d'alimentation équilibrée, on n'a pas l'obligation que ce soit absolument équilibré à chaque repas. On peut envisager l'équilibre sur un plus long terme, sur plusieurs repas.
Alors effectivement, c'est vrai que les éléments de base peuvent être là, mais après c'est... L'équilibre, il se fait aussi sur plusieurs repas, voire sur la semaine, parce qu'on n'aura pas tous les jours peut-être du poisson. Donc il y a des éléments secondaires qu'on retrouvera en fait sur la semaine plutôt que sur l'assiette même. Après, c'est vrai que d'essayer d'avoir toujours les trois composants, c'est important en tout cas dans la cuisine, enfin en cuisinant, d'avoir vraiment ce côté féculent, fruits ou légumes et une source de protéines pour le repas.
Tu veux dire que zapper un légume ou une salade à midi et puis en mettre un peu plus le soir
Alors ça, on pourrait effectivement, ou après prendre un fruit ou 4 heures ou 10 heures, peut-être des dips de légumes, je sais pas, c'est possible, effectivement, c'est une fois, mais c'est vrai que d'essayer d'avoir une assiette de base qui est un peu dans toujours le même style. Et puis après, effectivement, si un jour on ne peut pas forcément, parce qu'on est en déplacement comme ça, de compléter avec les collations, par exemple.
Puis permettre des fois des petits écarts, ça permet peut-être aussi de motiver, de faire un pas quelque part dans la direction de l'enfant pour que lui fasse aussi l'effort dans l'autre sens.
Absolument, tout à fait. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir mettre un petit peu de fantaisie dans son assiette et puis de pouvoir en fait tester, goûter et puis donner la possibilité à l'enfant d'observer que son goût il est aussi changeant et que tout à coup il y a des choses qui changent, des nouvelles découvertes qu'on aura fait à quelque part, à la crèche ou chez un copain. Et puis ça ouvre une porte et ça permet en fait à l'enfant d'avancer un petit peu.
Alors une alimentation variée, équilibrée, ça se complète aussi avec le mouvement. Ça, c'est aussi dans la thématique de cette émission. Aline Scheuer-Prince, vous êtes donc psychomotricienne. Pour la santé, le mouvement, il a un impact sur, pas seulement sur le physique finalement, hein, c'est plus large que ça.
Tout à fait. Il y a un impact sur les habiletés motrices, c'est la chose qu'on va attendre de manière assez immédiate par l'expérience, l'enfant, la personne adulte aussi. Elle va acquérir des nouvelles compétences, mais il y a des impacts sur la santé physique en termes de développement des os, quelque chose qui est un peu moins connu. C'est-à-dire que les enfants, ils vont développer leur capital osseux jusqu'à à peu près 25 ans.
Et Des grands enfants.
Justement, donc c'est bien plus tardif, mais il y a un moment donné où ce capital, il est effectué. Et après, on utilise le capital qu'on a. Donc, la solidité de nos os, elle dépend des sauts, des changements de direction rapides que l'on a fait quand on était petit. Et donc, ça a vraiment un impact sur tout le long de la vie. Impact aussi au niveau du muscle cardiaque, dont on connaît la grande importance. Je pense qu'il n'y a pas tellement besoin de l'expliquer. Et puis, des impacts au niveau cognitif, au niveau du développement d'intelligence. Par l'activité motrice, l'enfant, il apprend à connaître son corps en termes d'espace, le haut, le bas, la droite, la gauche. Il apprend à porter des objets, à les déplacer, à en tester la solidité. Donc, on est dans toute la connaissance aussi de l'espace dans lequel on vit. Et donc, plein d'autres expériences qui se font par le biais du corps et qui nous amènent à développer notre intelligence. Et puis, sur le plan relationnel, on connaît aussi l'impact de toutes ces activités de jeux en mouvement, qui sont des jeux dans lesquels on est proche, on est loin, on est dans l'impact, et où on doit beaucoup gérer ses émotions quand même, d'autant plus pour un enfant jeune. Et donc là, c'est des expériences extrêmement importantes au niveau social, au niveau de la confiance en soi.
Et quand on parle mouvement, on ne parle pas sport uniquement, au sens pur et dur, c'est vraiment toutes les activités qui nous permettent à la maison de ne pas rester assis sur le canapé.
Exactement, c'est tout ce qui est l'inverse de la sédentarité finalement. On parle de trois intensités au niveau du mouvement. Donc il y a le mouvement calme, ou simplement le déplacement. Après, il y a le mouvement de moyenne intensité, qui fait qu'on commence à être un tout petit peu essoufflé, ou on doit faire un petit peu d'effort. Et ensuite, le mouvement d'intensité plus haute, où là on est vraiment dans l'activité physique pure, où là on va avoir de la difficulté à discuter, on va vraiment être dans un effort intense, et où le muscle cardiaque est fortement sollicité.
Est-ce qu'il y a des recommandations en la matière? Parce que selon l'âge des enfants, selon l'intensité des mouvements, il faut alors pas en faire trop peu, mais pas en faire trop non plus.
Tout à fait. Alors, tant que l'enfant n'est pas dans la marche, donc si on parle du nourrisson, du bébé, on n'a pas de recommandations en termes de temps. Mais par contre, on recommande le plus souvent possible de le mettre dans des postures où il est en liberté de mouvement. Donc, de le sortir du maxi-cosy, de ne pas le laisser dans le siège auto trop longtemps. Donc de pouvoir le poser au sol vraiment dans une position agréable. Et là, le mouvement va venir de lui-même. Ensuite, depuis la marche jusqu'à l'âge de 4 ans environ, on parle de 3 heures par jour. Et donc là, on parle de 3 heures par jour de mouvement. Donc ça parle aussi des déplacements, des jeux où ils courent spontanément dans un parc. Enfin, donc on ne parle pas de sport, hein, on parle vraiment de mouvement. Et puis par la suite, on parle d'une heure par jour environ jusqu'à l'adolescence. Donc, ça dépendra effectivement d'un enfant de 6 ans. Une heure, ça va peut-être pas suffire. Donc, ouais. C'est un petit peu dégressif, mais ça, dans cet ordre-là.
On adapte aussi aux enfants. On verra plus concrètement d'ici quelques instants. On va vous retrouver. Comment mettre tout ça en pratique avec quelques conseils et quelques idées au quotidien. Ce sera juste après une petite pause musicale. Manger et bouger pour le plaisir des familles, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Une thématique qui fait l'objet d'un programme cantonal qui fait partie de la promotion de la santé. La responsable de ce programme alimentation et activité physique, Sabrina Rinaldo, nous en explique les objectifs.
L'objectif principal du programme alimentation et activité physique, c'est de promouvoir une alimentation équilibrée et suffisamment d'activité physique. Après, on essaye aussi d'atteindre des populations vulnérables, que ce soit des personnes économiquement ou socialement défavorisées. Et enfin, un dernier objectif, c'est d'impliquer les parents, puisque ce sont les parents qui sont le plus proches des enfants. En effet, notre public cible, ce sont les enfants du plus jeune âge jusqu'à 11 ans, les adolescents. Et la raison pour laquelle on choisit ce public, c'est qu'on estime que les enfants sont à même d'acquérir des compétences, des habitudes qu'ils vont pouvoir garder à l'âge adulte.
Alors pour atteindre toutes ces personnes, quelles sont vos possibilités d'action?
Ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place un certain nombre de ce qu'on appelle non-interventions et que concrètement se réalisent par des projets qui donc sont mises en place ou avec les publics cibles, que ce soit les enfants eux-mêmes, les professionnels qui entourent les enfants ou encore les parents. Et ça se fait par de la sensibilisation, par de l'information, de la prévention, etc. Donc le défi, c'est vraiment de dire une alimentation équilibrée n'est pas une question de privation, mais simplement de varier son alimentation, de manger de tout un peu et avec plaisir. La même chose pour le mouvement, donc mettre en place des conditions cadres qui permettent aux enfants de bouger, tout en ayant du plaisir et bouger un petit peu tous les jours. Il n'y a pas besoin de faire des grands sports pour pouvoir avoir une bonne condition physique. Ce qu'on essaie de faire, et c'est ça le défi, c'est de faire comprendre que les problèmes de surpoids ne sont pas liés simplement à une responsabilité individuelle, mais il y a de multiples facteurs qui déterminent le surpoids ou l'obésité chez une personne. Et pour nous, notre défi, c'est justement d'éviter la stigmatisation. Et notre objectif est de pouvoir aider ces personnes, de prévenir surtout, hein, pas dans le soin, mais dans la prévention. Donc c'est très, très complexe. Parce que voilà, il ne suffit pas juste de dire « y a qu'à » et le problème est résolu.
Alors, parmi les initiatives, les projets qui sont soutenus par ce programme cantonal alimentation et activité physique, il y a les petits gourmets à table, il y a Fourchette Verte, dont vous êtes la coordinatrice, Daniela Sunier. Il y a aussi Youpla Bouge, Aline Chorprince, vous êtes coordinatrice, psychomotricienne et coordinatrice aussi de Youpla Bouge. C'est ce qu'elle disait, hein, il suffit pas de dire on le fait et puis Youpla, c'est parti. Vous, dans votre programme, vous êtes aussi là pour donner des pistes et des conseils pratiques pour mettre en place ce plaisir de bouger au quotidien.
Oui, alors le programme lui-même, que ce soit le programme dans les crèches ou le programme dans les écoles, il s'adresse aux professionnels, donc aux enseignants ou aux éducateurs de la petite enfance ou éducateurs de l'enfance. Par contre, au sein du programme, on essaye aussi de promouvoir le mouvement dans les familles par le biais d'outils comme des jeux de société qui proposent des activités en mouvement, des brochures, ou par exemple, au niveau de l'école, on propose aussi aux enseignants de faire des bricolages propices au mouvement avec les enfants, et ensuite qu'ils ramènent ces bricolages à la maison pour les faire avec leurs parents, pour aussi leur montrer ce qu'ils savent faire, et puis être aussi mobilisateurs au niveau familial, de manière indirecte par l'école.
Donc l'idée, c'est pas de dire, bon, là, on va faire du sport, mais c'est d'induire ça par le jeu et d'installer progressivement des habitudes par des moments ludiques et conviviaux en famille.
Voilà, des enfants, des élèves qui ont eu l'occasion dans leur contexte extra-familial de pratiquer certains jeux, certaines activités motrices. Ils y prennent du plaisir, ils se développent des habiletés, ils ont envie de les montrer. Et donc, on espère que, en passant à côté d'un parc ou en étant en lisière de forêt, ils vont aussi avoir envie et inviter les parents à y aller. Donc, c'est aussi une sollicitation pour le quotidien.
Donc c'est important que les parents soient vraiment impliqués là-dedans, c'est pas juste donner les ordres aux enfants, les parents en font partie. C'est aussi le cas en matière d'alimentation, on évoquait une assiette équilibrée, les parents qui montrent l'exemple. Une alimentation variée, équilibrée et avec plaisir, c'est aussi un cadre à table, enfin c'est pas grignoter sur le canapé ou sur le coin du lit, c'est important ce moment du repas.
Alors effectivement, c'est important de prendre le temps de manger, de s'arrêter, de en fait prendre le repas comme une activité à part entière, être à table, assis, et qu'il n'y ait pas un autre élément qui nous dérange, que ce soit un écran ou que ce soit le journal, mais vraiment qu'on soit là, présent, pour manger, pour qu'on soit vraiment conscient aussi peut-être de nos sensations alimentaires, que ce soit la faim, aussi à la satiété qui peut venir par la suite. Et c'est important aussi que le parent soit vraiment le garant de ce cadre et qu'il aussi soit l'exemple. L'exemple que ce soit pour montrer, l'exemple pour goûter de tout, mais aussi montrer, ben voilà, on vient s'asseoir, on se met à table et on prend le temps de manger.
Oui, donc c'est aussi une façon d'éduquer l'enfant à être à l'écoute de ses goûts, mais aussi de ce qu'il peut ressentir en mangeant, voilà, de pas faire ça en vitesse, mais de vraiment d'écouter son corps. C'est aussi pour le corps, pour tout ça.
Voilà, c'est aussi pour le corps, et puis c'est une bonne manière pour les enfants qui sont souvent en fait en contact avec leurs sensations corporelles, de ressentir, ils sont souvent capables, la majorité des enfants ressentent la faim et le rassasiement quand ils ont suffisamment mangé par rapport à leurs besoins, et ils le font spontanément, c'est quelque chose de physiologique. Par contre, de mettre en place un cadre protecteur, comme vient de l'évoquer Daniela, ça permet de maintenir ce comportement, et ça c'est aussi très important, de maintenir des comportements favorables, et pas seulement d'agir quand ils sont dégradés, mais de maintenir quand ils sont déjà en place.
Et des choses qui s'installent dans la durée, hein. C'est pas du jour au lendemain qu'on va tout bouleverser et puis on va dire à partir de demain c'est plus comme ça que ça se passe.
Absolument, et puis c'est important de répéter les choses et qu'il peut y avoir aussi des exceptions, mais d'avoir une visée sur le long terme.
C'est valable aussi pour le mouvement.
Oui, d'avoir une attention conjointe sur que ce soit l'alimentation, le mouvement, le plaisir d'être ensemble et de partager des activités ou un repas, on est dans la même dynamique, c'est-à-dire une dynamique où on se respecte aussi. Et en tant que parent, on ne peut pas du jour au lendemain changer toutes nos habitudes. On peut avoir des intentions de faire un peu différemment et petit à petit, on adapte. Et en famille, on se met d'accord sur comment on va continuer notre quotidien.
C'est ça, on adapte à sa famille. Hein. Ce n'est pas des modèles qu'on doit prendre sur Internet en disant ça va être comme ça. Il faut aussi être à l'écoute en fonction des goûts, des personnalités de la famille. Il y a quand même, alors dans vos progrès, vous intervenez principalement dans les écoles, dans les crèches, mais il y a quand même quelques possibilités d'accompagnement aussi auprès de vous qui êtes diététicienne, notamment pour l'alimentation, ou vous, Aline Chorprince, psychomotricienne. Il y a aussi une possibilité d'avoir quelques aides et conseils si on est un peu perdu dans tout ça.
Tout à fait, quelle que soit la pratique, on parle d'alimentation, d'activité physique, ou de mouvement, ou de perception corporelle au sens plus large. Quand on est en difficulté, on peut trouver ensuite des professionnels pour nous accompagner.
Alors on va retrouver un peu plus tard tous les liens en ligne sur notre site. Daniela Sunier, Aline Chorprince, Florence Autier, merci d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée.
Merci.
Bonne soirée. Bonne soirée.
Réécoutez le mag Promotion Santé en tout temps sur rtn.ch/chronique.